Salut les marqués smart, ici El Patron qui vous parle. C'est le retour d'El Patron dans le Catchup, le Catchup 44, le podcast officiel des cahiers du catch. Je suis Hank et je suis accompagné aujourd'hui par Monsieur l'Amiral Armbar.
Salut.
Et aussi par l'homme qui connaît tout sur toutes les fédérations dans le monde entier. Mm-hmm. J'ai nommé Monsieur Ringside.
Bonjour.
Alors, on va vous parler du Monday Night Raw du 27 février, le Go Home Show pour Fastlane 2017. Un Go Home Show qui a commencé avec Monsieur Goldberg. Goldberg qui arrive sur scène et qui vient répondre à Kevin Owens. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, Kevin Owens a fait un long speech au centre du ring, dans le noir, avec un spotlight annonçant que finalement il allait détruire Goldberg, parce que Goldberg, dès que le match dure plus d'une minute trente, il est fini. Et donc, Goldberg, il vient, il embrasse des enfants, et il vient dire qu'il a entendu Owens, mais que tout ce que dit Owens, c'est pas vrai. Et puis qu'il sera prêt pour dimanche à Fastlane. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il dit. Heureusement, Owens arrive hein, au bout d'une minute trente. Donc Owens toujours en costard, avec une tronche d'enterrement, et puis il dit à Goldberg la semaine dernière, j'ai dit quelque chose, etc. Mais j'en ai gardé sous le coude. Il y a des trucs que je t'ai pas dit. Et puis là, à ce moment-là, il rappelle sa liste d'opposants battus depuis qu'il est arrivé à la WWE. Il dit Day One, j'ai battu John Cena quand même, le poster boy. J'ai battu ensuite Ambrose, je crois, pour la ceinture intercontinentale, si je me souviens bien. Ensuite Seth Rollins, ensuite Roman Reigns, et puis aussi Chris Jericho. Mais bon, il dit de toute façon Jericho, à la limite, si tu veux, je le compte pas, hein, il vaut rien. Pendant ce temps-là, Goldberg sourit et applaudit ironiquement. Hein, et puis Owens dit à Goldberg. Tu sais, toi, ta catchphrase, c'est You're Next, tout ça, mais moi, là, je te cite nom après nom, champion après champion que j'ai battu, et là, je te dis réellement, au premier degré, t'es le prochain. Donc, c'est pas une catchphrase pourrie, c'est juste la vérité. Goldberg se fout de sa gueule un petit peu en disant que c'était très émouvant, que voilà, bon, il ironise énormément, et il dit « Mais au lieu de parler, pourquoi tu viens pas te battre tout de suite ?» Bonne vieille technique de face. Owens fait mine de se lancer hein, dans l'arène, enfin de partir vers le ring. Et puis il dit ouais, on va faire un Green Bay Street Fight. Ce qui me rappelle que je ne vous ai pas dit où était le Monday Night Raw. C'était à Green Bay, Wisconsin. Wisconsin tout court, mais vous n'irez jamais là-bas, donc de toute façon on s'en fout. Un Green Bay Street Fight hein, que Owens annonce en courant vers le ring, et puis après il s'arrête à quelques mètres du ring, et puis il dit de toute façon Green Bay mérite pas de me voir catcher, et il repart en disant dimanche les champs Goldberg mourront. C'est difficile à traduire, mais c'est en clair, voilà, les fans de Goldberg pleureront leur maman. Voilà, c'était le premier segment de ce Monday Night Raw. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais demander d'abord à Monsieur l'Amiral.
Eh bien, j'espère que dans le match qu'ils opposera Fastlane, Goldberg sera meilleur que durant sa promo, parce qu'il était à chier. Je trouvais Goldberg, autant Kevin Owens c'était très bon, quand il énumère les différents mecs qu'il a battu depuis son arrivée, bah ça fait un beau palmarès. Par contre Goldberg, j'ai trouvé en dessous quoi, c'était naze, franchement naze. Donc j'espère que ok, il en garde sous la pédale et que le match sera intéressant, parce que là pour l'instant ça fait pas super super envie. Moi j'ai un peu peur.
Moi je serais moins méchant hein. Je suis plutôt convaincu par Goldberg, même s'il a rien à raconter, même si voilà, il joue le babyface à fond, je trouve que ça va, il présente bien, on voit qu'il a fait un peu de muscu, il a l'air d'être en forme.
Non, c'est
il
pas
a quand même la voix qui porte comme il faut.
C'est pas la muscu le problème hein, c'est la cardio. On a l'impression qu'il était essoufflé à force de parler pendant 45 secondes, alors
Ouais, mais de toute façon, le match, à mon avis, ne fera pas plus de 5 minutes. Hein.
C'est le stress.
Malgré tout le suspense qu'ils ont essayé de nous vendre, de toute façon, Owens va perdre au bout du compte. Et dans l'absolu, même comme je disais que s'il a rien à raconter, Goldberg, je trouvais à la limite même plus convaincant qu'Owens, même si Owens est très très bon au micro, ça reste pour moi quand même en dessous de ces vieux briscards là, comme Goldberg, où on en aura d'autres dans la soirée qui sont moi. Pour moi, quand même, un cran au-dessus quand il s'agit de faire des promos. Je trouve qu'ils sont bigger than life, ils sont plus largement plus convaincants. Après, effectivement, tout ça était assez léger dans le propos. Donc voilà, c'était bien, mais pas transcendant. Je suis moins sévère que toi, Amiral.
J'aime beaucoup l'écran que je suis en train de voir, j'espère que ça sera en vidéo, mais je suis un peu le médiateur, il y a le heel à droite et le face à gauche. oui, bah rapidement, moi j'ai bien aimé ce que Owens a fait. Par contre, j'étais pas content de la réaction que Goldberg avait, qui était finalement de pas le prendre. C'était plus que pas le prendre au sérieux, c'était le discréditer direct en l'applaudissant. En faisant des fausses applauses, en riant comme ça. Et bon, le papy goguenard, papy rieur, qui en a rien à foutre de rien, et on a l'impression qu'il survole un peu tout avec dans les yeux des dollars et le résultat du match. Bon, j'aimerais qu'on me le vende un peu plus, le match, tu vois. J'aimerais qu'il ait un minimum de doute, enfin qu'il ait pas forcément du doute, mais qu'il ait un minimum de respect pour son adversaire. Et là, on a l'impression que bon, c'est un peu genre bon, gamin, je te survole. Moi, mon territoire, c'est Brock Lesnar, c'est The Rock, c'est pas les petits gars. Enfin, c'est une nouvelle fois en fait, il joue le fait, enfin. Il montre que les vétérans de la WWE, finalement, quand ils viennent, ils sont toujours au-dessus et ils sont toujours. Enfin, tu reproches souvent au ringside que, enfin, tu dis les top stars aujourd'hui sont ont pas le charisme ou ont pas la carrure, etc. Des vétérans, mais en même temps, la WWE fait tout pour nous montrer que. Voilà, le vétéran, il est là, il en a rien à battre, tout comme The Rock quand il vient et qu'il a un adversaire, il en a rien à foutre et il se fout de sa gueule, etc. Donc voilà, c'est le modèle babyface prétentieux qu'on a aussi avec Cena de temps en temps et qui voilà, donc je suis pas fan. Mais...
Alors, surtout qu'il y avait une occasion manquée selon moi, parce que quand Owens commence à énumérer tous les gros stars actuels qu'il a battus, Goldberg aurait pu répondre en disant bah voilà, moi j'ai battu machin et notamment récemment actuellement donc Brock Lesnar, qui est le mec a conquis la streak d'Undertaker, qui a été champion machin, etc. Donc du coup opposé, ok, je respecte toi Kevin Owens, ton pedigree et qui t'a battu, mais moi je suis Goldberg, j'ai vécu Lesnar, j'ai vaincu machin 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 et je te le dis, you're next. Et dimanche on va le voir et je vais te rajouter à ma liste. Il aurait pu très bien la jouer comme ça en disant je te surclasse mais je respecte ton parcours. Ouais.
Et là, ça aurait été super intéressant. En plus, ça aurait été vachement bien comme idée. C'est vrai que j'y avais pas pensé de dire toi t'as ta liste. T'es au sommet de cette liste de top stars de cette époque et moi je suis au sommet de la liste de top stars de l'époque d'il y a 20 ans, enfin 15 ans. Et donc du coup ouais, ça aurait été une bonne idée, mais là ce qu'il a fait finalement Goldberg, bon, peut-être qu'on suranalyse les gens qui regardent le 4 juste comme ça, bon, ils s'en foutent, mais ce qu'il a fait Goldberg, c'est que on lui a listé les top stars des 5 dernières années et il a fait ouais, non, c'est déminable. Enfin, c'est il y a juste.
Bah, ouais, mais Goldberg, c'est une plus grosse star que ne sera jamais Kevin Owens ou tous ceux qu'il a listés. Donc,
on n'en sait rien.
C'est déjà bien. Bah. Oui, on peut rester optimiste, mais voilà, c'est déjà bien. Entre guillemets, qui s'abaisse à venir faire un affrontement avec Kevin Owens. Après, quand t'as une star avec cette aura-là, effectivement, tu peux pas trop te permettre de la faire descendre au level d'un Kevin Owens, même si le problème, c'est qu'ils auraient dû faire déjà monter Kevin Owens à la base plus que ce qu'il est. Mais
il peut être prétentieux et le prendre, être un peu hautain et dire oui, mais moi, j'ai battu des noms qui sont restés dans l'histoire. Il peut très bien le faire comme ça. Mais là, tout ce qu'il a fait, c'est faire, ouais, enfin tout
ouais,
ça,
non, c'est
tout
qu'il avait ça, pas c'est du petit, à raconter,
c'est du menu frottin quoi.
Ouais,
donc,
voilà.
Du coup, donc.
En fait, il répond pas à ce que dit Kevin Owens, ça le problème. C'est qu'il fait
okay, que
je m'en fous en fait ce que tu fais raconter, je m'en fiche quoi. Et tous ces réactivités, je m'en fous.
Chaque ça traduit quelque chose.
C'est alors après le Goldberg, c'est une méga star, c'est pas une superstar, c'est une méga star, OK, mais c'est vrai que pour vendre le match, pour vendre l'affrontement, ils ont intérêt à lisser un petit peu les niveaux les uns des autres quoi pour que ça puisse marcher.
Ils ont insinué un petit peu de suspense. Il y a peut-être une petite chance que Kevin Owens gagne quand même, mais voilà, c'est ce qui ça suffit pour vendre le match, je pense, de leur point de vue. Hein, je parle. Ouais. Et c'est vrai qu'on pouvait s'attendre quand même à mieux. Hein,
mais du coup, au final, je trouve que Goldberg a rien à raconter d'intéressant. C'est le même truc. Your Next, Jack Hammer, Spear, 1, 2, 3, j'ai gagné. Allez, hop, c'est emballé, c'est pesé.
Une de stress.
Très bien.
Donc bon, donc on a pas du tout fait court sur ce segment, on va y aller. Ensuite on a eu New Day qui est passé parler de crème glacée hein, comme la semaine dernière. Et puis Biggie, donc du coup, enfin non, ils annoncent donc du coup leur crème glacée arrive bientôt. Mais Biggie dit mais avant tout ça. On doit retirer le shine des Shining Stars. Et juste après, ce que j'ai adoré, que vous n'aurez pas forcément entendu, ou si vous avez vraiment l'oreille, juste à la fin, il a dit très rapidement, c'est pas moi qui ai écrit cette phrase.
Ouais, j'ai entendu. Ouais.
Mais donc, du coup, Primo et Pico arrivent. Ils ont des nouveaux Marcel, enfin, ou peut-être qu'ils les avaient la semaine dernière, mais comme j'ai pas regardé en détail. Surtout quand Primo et Pico sont là, je regarde pas en détail. Et donc les New Day reçoivent un message, enfin une petite lettre un peu sous la forme des nominations aux Oscars, comme par hasard. Un petit message de la part d'un caméraman qui est juste à côté. Et puis en fait le message dit que en fait les Shining Stars seront contre le Big Show plus tard dans l'émission. Et le message a été écrit par Jinder Mahal et Rusev. Oh mon Dieu, donc ils savent écrire. Hein. Il y a des rumeurs qui peuvent être contredites. Et donc les New Day seront contre Jinder Mahal et Rusev juste maintenant. Donc voilà. Et j'ai marqué ne cherchez pas à comprendre. Est-ce que
bah en fait c'est une allusion aux Oscars en fait. C'est une allusion aux Oscars.
Oui,
bah, voilà.
Non mais j'ai compris la référence. Mais ce que je veux dire c'est que ça n'a aucune logique. Pourquoi ils se sont auto-bookés? Ils ont fait un faux. Alors, ils se sont auto-bookés, ils ont fait un faux booking, ou je ne sais pas quoi.
Ils pensaient que c'était drôle.
Voilà, ils aiment bien faire des références à l'actualité, voilà. Donc ils ont fait une référence aux Oscars, au bug qu'il y a eu entre les enveloppes pour le meilleur film des Oscars la veille, voilà.
Ça fait marrer Papy Vince. Et donc, New Day contre Rusev et Jinder, j'ai noté deux petites choses. Jinder Mahal est désormais appelé Jinder Hardbody Mahal. alors, je sais pas si c'était... je crois qu'ils avaient commencé un petit peu la semaine dernière, mais là c'est tout le temps. Hein. Il blague beaucoup sur son physique, EPO sponsorisé. Et deuxième truc, c'est New Day a gagné sur un roll-up de Xavier Woods sur Jinder Mahal. Et Rusev et Jinder se disputent parce qu'ils se sont gourés au niveau de qui était légal à la fin et on s'en fout. en coulisses, on a eu Enzo et Cass donc du coup qui parlait voilà du match qu'ils vont avoir à Fastlane contre Gallows et Anderson pour la ceinture. Donc Enzo il piaille sur tout ce qu'il fera quand il sera champion et puis Cass explique que Gallows et Anderson ont été champions partout dans le monde mais Enzo et Cass ils ont jamais été champions même à NXT et bref tout ça pour nous rappeler que Cass a un match ce soir contre Luke Gallows. Donc est-ce que vous avez un commentaire sur ce superbe segment? Est-ce que Enzo vous fait rire ou vous voulez lui mettre des baffes?
moi j'aime bien Enzo. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à plus le supporter, mais moi il me fait toujours marrer. On voit une petite espèce de tension entre les deux qui peut être intéressant. Après c'est dans le ring que c'est plus délicat parce que l'un comme l'autre, je vois pas d'évolution moi depuis qu'ils sont arrivés. ça a tendance à régresser même un petit peu. Donc là-dessus, voilà, moi j'ai peur que le jeu, par exemple, le match contre Anderson et Gallows à Fastlane, j'attends pas du tout, quoi. C'est, à mon avis, ça risque de pas donner grand-chose. Et voilà, faudrait vraiment que maintenant ils musclent leur jeu au niveau de l'in-ring, parce que bon, ils tiennent le micro, mais pour le reste, c'est vraiment, voilà, on sait que ça va pas déboucher sur des matchs fantastiques, donc c'est toujours un peu mi-fig, mi-raisin, quoi.
D'accord. Bon, bah, l'amiral, tu as mimé le fait que tu voulais lui mettre des claques. On va parler vite fait du match. Donc du coup, Cass contre Gallows. Bon bah Cass, il fait sa panoplie, sidewalk slam, empire elbow, machin. À un moment, il y a une distraction d'Anderson extérieur qui attaque Enzo, mais Cass réussit quand même à caser une grosse boute sur Gallows et faire le tomber de 3, voilà, pour un match qui a duré genre 5 minutes. J'ai noté, ça fait quoi, 3 semaines que le club se fait battre ou disqualifier et démonter?
C'est ça, exactement, les deux premières fois par Reigns. Hein,
je pense que c'est encore plus intéressant, ouais. Je pense que c'est encore plus intéressant que est-ce que Enzo et Cass vont rester ensemble ou est-ce que les gens vont bouer Enzo au bout d'un moment, je pense pas, mais alors par contre les champions en ce moment ils en prennent plein la gueule quand même.
Ouais. Bon, on peut dire peut-être que c'est de l'inverse booking, encore une fois, hein. On fait Luke et Strong les softs pour les faire perdre au pay-per-view contre The Club, j'espère. C'est vraiment dégueulasse d'enlever les ceintures au club après un règne où ils ont fait que perdre continuellement. Donc voilà, c'est triste, encore une fois. C'est pas cette semaine que la division tag team sera redorée d'un espoir figurant, non.
Non, on continue à patiner dans la semoule là avec ce club qui va de défaite en défaite. Et puis si les nouveaux aspirants numéro 1, c'est Enzo et Cass, ça risque pas d'être l'éclate au niveau des matchs pendant les pay-per-view. Donc voilà, il faut se rattraper aux petites séquences un peu micro de Enzo et puis voir s'ils peuvent nous faire des trucs intéressants. Mais bon, c'est vraiment le maillon faible d'Euro, hein. Le show n'était pas terrible, hein.
Moi, ce que j'attends finalement, c'est que si Enzo et Cass gagnent la ceinture, finalement la logique, c'est qu'on ait un bon vieux Enzo et Cass contre Roman Reigns.
Voilà. Et que Roman Reigns soit enfin champion tag team.
Et voilà.
Il est temps, parce que c'est vraiment lui le vrai champion tag team.
Bah,
en fait.
Unifier les ceintures tag team.
Non, toutes les ceintures.
L'unification des ceintures.
Voilà,
tag
toutes
team.
Les ceintures.
Il y aura un match Roman Reigns et Cena pour unifier les ceintures de Raw et SmackDown ensemble. Ça va être super.
C'était qui faisait, est-ce que c'était la team, non, c'était pas la team Elno, c'était qui faisait genre I am the tag team champions?
Ouais, c'était la team Elno, ouais.
C'était la team Elno.
Ken et Daniel.
Voilà,
Royal,
il pourra faire ça en Man Reigns tout seul. I am the tag team champions. Donc voilà. Bon, allez, on va passer à Cesaro et Sheamus qui discutent un peu de leurs soucis en coulisses. Et puis Samoa Joe arrive. Et il salue Cesaro en disant ouais, ça faisait longtemps. Cesaro se fout de la gueule de Joe en disant que il est le sous-fifre de Triple H. Et puis Samoa Joe lui dit toi t'es toujours en quête du brass ring alors que moi je suis arrivé avec. Donc le brass ring c'est genre le truc de Hall of Famer, quoi, si j'ai bien compris. Vous ne me contredisez pas,
ouais,
les gars.
Grosso modo.
Ouais, c'est
voilà.
Comment c'est dire. C'est un truc imagé pour dire voilà le symbole de réussite, ouais, quoi.
C'est ça.
Donc le Swiss Superman répond oui, mais ce brass ring, c'est pas le tien. Enfin bref, ça se chamaille. Et puis Joe lui dit continue à faire le malin, ça t'a mené loin, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc voilà, on a un début de tension. Et puis un peu plus tard, il y a Samoa Joe qui va voir Mick Foley pour se foutre un peu de sa gueule, pour lui dire bah dis donc tu ressembles à rien, machin et tout. Et puis Mick Foley ressort un peu la carte, ouais, t'es la marionnette de Triple H. Apparemment c'est la thématique de la soirée. Et puis à la fin il dit à Joe non mais de toute façon déjà tu me parles pas comme ça, c'est à moi, c'est à mes ordres que tu réponds, parce que Joe dit je réponds aux ordres de personne. et il lui rappelle que bah t'as quand même un contrat à la WWE, donc tu vas répondre à mes ordres. Et bref, il y a un match Samoa Joe contre Cesaro en quasi main event pour ce soir. Donc voilà, miam miam. Oh, on a eu aussi une séquence de Stéphanie en coulisses qui a pourri complètement Mick Foley en lui disant que sa vie ne valait rien, qu'il a une santé de merde et qu'il crèvera plus bas que terre, c'est logique, mais bref, qu'il crèvera comme une merde.
Seule et découverte.
Voilà.
Que Triple H est de plus en plus fort chaque jour et que Mick Foley est de plus en plus faible et minable chaque jour qui passe.
C'est ça, qu'on l'enterra dans la fosse commune.
Ouais. Si c'était français le show, je pense que Mick Foley pourrait attaquer Stéphanie ou Prud'homme et se faire les couilles en or. Hein. C'est...
Ouais. Un peu de harcèlement moral là.
Ça, après, c'est pas mal. Après les menaces la semaine dernière, le harcèlement moral, super.
Joli.
Petite chose à dire sur ces séquences, un truc que vous avez aimé, vous avez trouvé ça comment la rencontre Cesaro, Joe, enfin. En backstage du moins. Bah, on va parler du match après.
Du coup, là ils font allusion comme quoi ils se connaissent, ils ont catché ensemble notamment à la Ring of Honor il y a à peu près 10 ans, 2006. Regardez, donc il y avait eu quelques petites rivalités là-bas, mais ils ont pas non plus, ils sont pas rencontrés durant des années dans le monde entier, hein, mais ils essaient de construire un peu cette pseudo-rivalité, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire que toute storyline, aussi tenue soit-elle, qui soit développée sur Cesaro, je pense qu'on est plutôt bon client, hein, parce qu'on regrette le fait qu'il soit pas assez utilisé, donc en plus, voilà, ça va donner lieu à un match qui, comme on va en parler, est intéressant, donc ça plutôt cool. Après, le harcèlement Mick Foley, bon, ok, même lui le dit.
Le harcèlement moral, pour ou contre?
Bah, de toute façon, lui il le dit, hein, il fait, je sais pas combien de temps je suis encore le GM manager, ça soit quelques heures ou quelques jours, voilà, bon. Ça a continué à amorcer encore une fois sa sortie de l'écran pour son opération, comme on en parlait la semaine dernière. On verra bien.
Ouais. On suppose qu'il va lui arriver un sale truc à Mick Foley, hein, d'ici pas longtemps. C'est dommage qu'il puisse plus du tout catcher là, je pense, parce qu'il aurait pu avoir une séquence sympa où il se ferait détruire par quelqu'un avec un bon gros spot des familles, un bon gros pump des familles, mais je sais pas comment ça va se passer, ce sera sûrement hors caméra. Mais bon, c'est sympa cette petite intrigue qui avance tout doucement. Et pour ce qui est de Cesaro et Joe, ben Joe, c'est un peu comme AJ Styles, on a l'impression qu'il a toujours été là. Hein. C'est maintenant le mec dangereux du roster. C'est super intéressant de le voir face à Cesaro pour au moins une soirée. On se dit qu'on va rester pour voir le match, hein, parce que c'est quand même un peu un dream match quelque part. L'historique entre les deux, il y a aussi le fait que Samoa Joe a envoyé l'ancien coéquipier de Cesaro à l'hosto, Tyson Kidd. Donc, je pense que ça doit jouer un petit peu dans ce qu'ils sous-entendent. D'ailleurs, il n'y aura pas de Muscle Buster dans le match. Mais non, je pense que Cesaro ne se prendra jamais un Muscle Buster par Samoa Joe.
Il avait déclaré en interview en 2016, si on lui demandait s'il affronterait un jour dans la WWE Samoa Joe, il a fait oui, mais pas de Muscle Buster, et que ça devrait être un move qui devrait être banni par la WWE parce qu'il est dangereux.
Par contre, j'espère quand même qu'on reverra ce Muscle Buster qui, à mon avis, n'est pas si dangereux que ça. Mais voilà, plutôt un truc qui fait saliver, quoi. Cesaro, Samoa Joe. Et puis Sheamus aussi à côté qui était là, qui voulait aussi se confronter avec le Samoan. Voilà, ça nous tisse peut-être un match pour la semaine prochaine aussi. Moi, c'est des trucs que j'ai envie de voir. Voilà, Samoa Joe contre Sheamus, Samoa Joe contre Cesaro. Ça donne de l'intérêt à Roi.
Ça tisse tellement que je vais le garder de côté et je vais vous casser le moral parce qu'on va parler des cruisers.
Alors, attends, on parle des cruisers. Ok.
Qu'est-ce que voilà. Moi, je te vois pas. Ah oui.
J'ai mis la couleur violette, c'est ça, voilà.
Les gens, les gens qui écoutent l'audio, du coup, ils ont rien compris. Mais donc du coup, l'amiral a mis une lumière violette chez lui. On ne sait pas comment. Il a mis en fond d'écran violet. Donc, on a eu Tozawa.
Gros budget.
gros budget, Ketchup. Hein. On n'a pas encore lancé le Kickstarter, mais là, je pense qu'on en a besoin. Donc, du coup, on a eu Akira Tozawa contre Noam Dar. Donc, on rappelle que Tozawa est en feu contre Kendrick.
Brian Kendrick, ouais.
Oui, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai noté Perkins. Heureusement que je me suis corrigé. Donc, Brian Kendrick, The Brian Kendrick, qui donc a voulu devenir son mentor, en fait, ces dernières semaines. Et puis, à chaque fois, Tozawa lui a dit non. Et puis, lui a fait non de la tête parce que, de toute façon, il sait rien dire en anglais. Donc, Kendrick a gagné par décompte à l'extérieur à 205 Live. Hein, juste quelques jours avant l'émission, en coinçant le pied de Tozawa sous le ring. Et donc voilà, c'était sa deuxième leçon. Parce qu'à chaque fois qu'il le bat, il dit c'est ta première leçon, c'est ta deuxième leçon, etc. Bon, bref. Donc, les trois infos de ce match. Déjà, l'annonce du kick-off de Fastlane, hein, ce sera Tozawa Rich Swann contre Kendrick et Noam Dar. Tozawa a gagné avec un snap German suplex après un match très très rapide avec l'obligatoire suicide dive et pas mal de pirouettes. Et juste après le match, Kendrick a attaqué Tozawa dans le dos pour sa troisième leçon, comme il le dit. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? En tout cas, Tozawa qui s'attire toujours les faveurs du public. Donc c'est peut-être un des rares cruisers à provoquer une réaction dans le public. Ouais. Donc ça marche toujours.
Il met le paquet, hein. Il met le paquet aussi, hein, pour.
Ouais, très énergique, il va très vite, vraiment belle énergie, sa snap German suplex, c'est vraiment belle. Donc un bon finishing move, ça aide toujours. Et ouais, il arrive à communiquer avec le public avec ses cris là. Ok, il parle un peu anglais quand même. Hein. On l'avait vu en séquence backstage la semaine dernière ou il y a deux semaines, à dire Brian Kendrick qui le connaissait, qui l'aimait pas, etc. Et j'avais été étonné. Je dis ok, c'est un des Japonais la WWE qui sait parler anglais et qu'on comprend. D'accord. Donc du coup, peut-être qu'il aura un peu plus de promo à délivrer.
Tu veux dire au-dessus du niveau de Nakamura quand même?
Ouais, ça a l'air en tout cas. Largement.
Que Nakamura, bordel, c'est une vache, hein. C'est une vache espagnole. Quand il parle,
yes,
on a l'impression qu'il est, il est paralysé de la bouche.
Oh, c'est pas pire que Finn Bálor.
Non, Finn Bálor, il a une patate dans la bouche. C'est l'accent irlandais.
La patate chaude.
C'est ça.
Donc voilà. Oui, et puis on a eu une petite intervention à un moment d'Alicia Fox, mais donc rien de spécial. On va passer donc aux filles avec Charlotte qui arrive sur scène cette fois-ci avec Dana Brooke. Hein, Dana Brooke, le retour de Dana. Dana, elle parle du fait que Bailey l'a déçue en montrant la semaine dernière qu'elle voulait conserver la ceinture, même si elle a triché avec l'aide de Sasha Banks. Et donc elle dit bah, Bailey c'est censé être une gamine simple et pure et finalement Bailey c'est pas une fille si sympathique que ça mais ça reste une fille moyenne comme tout le public, c'est un one hit wonder, elle a c'est son quart d'heure de gloire mais ça va se terminer rapidement. Elle fait des comparaisons avec les gens qui ont eu un One Hit Wonder, Vanilla Ice, et puis des gens du football américain que vous connaissez sûrement pas.
Et le cast de Twilight aussi.
Et le cast de Twilight aussi.
Ça, c'était
aussi
drôle.
Ouais.
Ce qui est bizarre aussi, parce que il y a quand même deux personnes dans le cast de Twilight, enfin les personnages principaux qui ont fait des belles carrières au cinéma. Mais donc, Bailey arrive pour la couper. Et puis elle lui rappelle qu'elle l'a battu trois fois et elle remercie encore le WWE Universe pour ce championship parce qu'apparemment c'est pas elle qui l'a gagné, c'est tout le monde, enfin bref.
C'est nous les vrais stars.
Voilà. Elle dit qu'elle a un nouveau rêve, elle veut arriver à WrestleMania. Alors elle lève le doigt, le bon vieux cliché, je monte le signe WrestleMania. Je veux arriver à WrestleMania en tant que championne. Et Charlotte lui dit « J'en ai tellement marre de t'entendre parler de tes rêves et de tes espoirs. » Et c'est à ce moment que Sasha Banks vient interrompre ce segment et puis... elle arrive et je vais essayer de vous faire une imitation parce que là on est arrivé au niveau de Super Saiyan 3 du langage de Sasha Banks. Ça faisait environ ça, ça faisait Bailey, tout ce que le public veut et tu aimerais trop être comme elle. Et et Charlotte souligne que Sasha Banks vient toujours voler la vedette à Bailey et c'est fatigant. Finalement, Sasha Banks dit « On n'a pas un tag team match à lancer maintenant ?» Et « Allons-y !» Et Charlotte dit « Oui, mais c'est pas avec ma protégée Dana qui sert à rien juste à côté de moi. C'est avec cette fille. » Et là, tout le monde se demande, le roster féminin est tellement grand à Raw.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Qu'est-ce que ça peut être ? C'est Alicia Fox ? Non.
Non. Emma Lina.
Emma Lina, voilà, ou Emma et Malina, la réincarnation de
Il y a Alicia Fox.
Quelle identité. Voilà, Alicia Fox, ou peut-être Emma Lina.
Non, enfin, bref. Pas.
C'est Nia Jax qui arrive pour ce tag team match. Mais on va d'abord parler de ce segment qui, pour moi, est allé dans tous les niveaux de qualité et toutes les directions. Donc, allez-y, ringside, vas-y.
Ouais, c'est toujours Charlotte hein, qui s'en tire le mieux dans ces histoires-là. Toujours un bon point au-dessus. Bailey, c'est du classique, c'est du babyface relativement efficace quand même, puisque le public la soutient quand même. Et puis Sasha Banks, c'est pas possible quand elle parle. Hein. Faut qu'elle fasse ça. À une turn définitive parce que c'est pas, elle a un phrasé, c'est pas possible puisque lui font raconter, c'est toujours un peu délicat. Dana Brooke définitivement sur le carreau. Je crois que pour elle, c'est, elle va jouer le décor quoi, hein, la petite plante.
Ah bah ça, c'est une très belle plante. Hein.
Elle a pris un peu de muscle hein. J'ai remarqué.
Je n'ai rien oublié dans ce segment hein. Pour les auditeurs. Dana Brooke n'a rien dit et n'a rien fait.
Alors,
elle était juste là.
Elle a pas outré quand on lui a dit qu'elle cachait pas.
Ouais. Elle a un nouveau gimmick en fait. Elle est mime maintenant. Elle fait mimes. Elle fait que des réactions d'expression. Elle a une bonne expression effectivement. Quand elle a appris qu'elle cache pas, elle a fait genre.
J'ai une cru. Hein.
Tu sais que justement la tête de Dana Brooke dans WWE 2K17 ressemble quand même vachement à un mime.
Ceci explique ça.
Donc voilà, et puis bon, Taya Jax qui arrive, bah c'était ouais, un peu logique. C'est sans surprise quoi, mais c'est ça donne du piment au match.
Ouais, et Sasha Banks quand elle insulte à mon nez Charlotte, elle dit ouais de toute façon toi t'as une stupide face, t'as une tête stupide. Et le public
j'ai oublié
reprend
ça.
Stupide face. Bon ok, le public qui chante n'importe quoi, mais alors
ouais, j'ai la mémoire sélective.
Promo, ouais, ce niveau de promo naze quoi, vraiment super naze. La semaine dernière, je sais plus ce qu'elle a dit Sasha Banks à Stéphanie, une insulte aussi naze que celle-ci. Enfin ouais. Faut changer son texte quoi, c'est pas possible. Et la façon qu'elle a de le dire avec son accent que tu as très bien imité,
merci.
Mais en plus voilà, la façon dont elle le dit est nulle et ce qu'elle dit c'est nul aussi. Donc
après ça a fonctionné du coup. Le public a repris.
Ouais.
Bah oui. Quelque part il y a eu c'était efficace quand même.
Un public un peu étrange ce soir.
Mais oui, c'était pipi caca. Ça rappelle les sombres heures de John Cena qui insulte tel un gamin de 8 ans un autre catcheur dans la cour de l'école et le public fait ouais bravo c'est le gentil John Cena. Ouais, non s'il vous plaît quoi.
Et regardez il a traité de pute et Yves Torres. pute.
Ça loyalty respect.
C'était la belle époque. Hein, souvenez-vous les divas, ça c'était autre chose. bref, on va passer au match. Alors, ce match que je vais vous raconter rapidement, donc ça commence avec Nia Jax qui détruit Sasha Banks, mais Bailey réussit à taguer et remonter la pente. Et plus tard, c'est Charlotte qui se fait mener du bout du nez par Bailey. Dana Brooke, à un moment, tente d'intervenir, mais elle rate totalement son truc. En fait, elle essaie de faire tomber quelqu'un. Et puis, finalement, après, elle se fait massacrer, je crois, par
Bailey.
Par
ouais.
Ah non, c'est par Bailey.
Ouais, elle lui fait un Bailey to Bailey.
Ah oui, elle lui fait un, voilà, un Bailey to Bailey. Et puis voilà, après, Dana Brooke ne fait plus rien. Après la pub, c'est Nia Jax qui est encore en train de détruire Sasha Banks. Hein, c'est la thématique du match. Et elle lui fait une sorte de gut buster, je crois. Ou c'est, je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, c'est un gut buster, ouais.
Ouais, voilà, c'est la même position qu'un backbreaker mais inversé, quoi. Et puis, elle fait un leg drop et tomber de deux sur Sasha Banks. Mais ça ne marche pas. Et puis ensuite, Charlotte demande de taguer. Donc voilà, elle arrive et elle fait une soumission à Sasha Banks, un peu dans tous les sens, hein, une grosse séquence de soumission. Et elle a du sang sur le visage à ce moment-là. J'ai pas trop compris d'où ça venait.
C'est l'arcade.
Est-ce qu'on verra l'arcade?
Ouais. Ouais. Et comme ça scène très vite, on a eu le filet de sang. De toute façon, c'est le nouvel gimmick de Charlotte. Hein. Chaque match, maintenant, elle traîne quelque part.
Mais elle refait. Donc, Charlotte refait un tag à Naya, qui maîtrise, comme d'habitude, Sasha Banks, et puis combine avec la reine Charlotte pour attaquer Banks. Mais à ce moment-là, Banks repousse Charlotte et elle tag Bailey. Bailey qui enchaîne avec un drop kick, puis un elbow sur Madame Flair. Et Charlotte, désespérée, tag Naya. Bailey tente d'étrangler le monstre, hein, pour refaire un petit peu le spot où elle l'avait battu à NXT TakeOver il y a un an environ. Et donc ça marche pas. Banks tente de rajouter sur cet étranglement et saute sur la enfin elle fait un drop kick à partir du poteau sur Nia Jax. Et je suis en train de dire n'importe quoi. Elle tente de sauter sur Nia Jax et Nia la rattrape donc dans les airs, voilà, et elle la balance donc sur Bailey, hein, spot assez impressionnant. Et puis ensuite, elle fait donc Nia Jax fait un guillotine leg drop sur Bailey pour le tomber de 3. Nia Jax gagne. Enfin, l'équipe de Charlotte et Nia Jax gagne. Voilà pourquoi on fait plus de résumé chronologique des matchs. Mais je voulais le faire en entier parce que finalement, en fait, j'ai tellement suivi le match que j'étais comme ça, genre. Le regard sur le match et puis les mains sur le clavier, genre ouais, très bien, c'est bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce match, même si après j'ai entendu dans un autre podcast qu'il y avait des trucs, il y avait plus de trucs ratés que ce que je me suis rendu compte. Mais voilà, et grosse victoire de Nia Jax sans jeu de mots.
Non, c'était cool, c'était un bon match, une bonne dynamique de tag team. Je trouve qu'on voyait des choses, même s'il y avait des petits ratés, qu'on voit pas forcément dans la tag team division chez les mecs, là qui était plutôt bien en termes d'énergie, de hot tag, etc. Et puis à la fin, effectivement, victoire avec autorité de Nia Jax, et c'est le bon booking. C'est elle qu'il faut mettre en valeur pour l'insérer effectivement dans la carte pour le titre, donc c'est très bien que ce soit elle qui fasse tomber sur la championne en plus, donc ça pour moi c'était la bonne solution, la bonne fin de match qu'il fallait faire en tout cas.
Ouais, c'est intelligent hein, d'avoir booké ça comme ça avec une grosse victoire de Nia Jax qui est toujours le monstre du roster, toujours invaincu, toujours imbattable on dirait, hein, parce qu'elles ont beau faire ce qu'elles veulent les deux, ça donne rien. Et putain, si on avait effectivement des matchs comme ça avec les mecs dans la division tag team, eh ben on serait pas mal, hein. On serait pas mal parce que c'était long, c'est sûr qu'il y avait des petits ratés, c'est sûr que c'était pas toujours fluide à 100%, mais c'était un bon match de catch.
Ouais,
hein,
c'était
donc,
très cool, vraiment très cool. Et enfin, ça y est, la série de Nia Jax qui crush des jobbers locaux est terminée. Là, elle est avec les trois top stars du roster féminin et elle a montré qu'elle avait sa place dans la discussion. Donc, c'est parfait. Ça fait avancer l'histoire. Le match est cool. Que demander de plus?
Ouais, après c'est pinaillé, hein, dire qu'effectivement il y a peut-être des trucs qui ont été loupés, mais ça c'est toujours comme ça un petit peu, de toute façon que ce soit chez les filles ou chez les mecs, sur des gros matchs comme ça compliqués où ça se joue à 4, forcément il y a des petits ratés, hein, ça arrive.
Et puis pour une fois qu'un tag team match en go home show sert à quelque chose, parce que d'habitude c'est genre bon alors on va prendre deux affiches, les deux affiches principales et on va mettre les 4 gars dans un tag team match. Et ça sert juste à rien. Alors que là, finalement, en fait, ça permet de faire. Du coup, c'est impossible. Il n'y a pas de booking inversé parce que c'est aucune des deux du match pour la ceinture qui a gagné. Donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, ça fait qu'on peut se poser des questions sur où va aller Nia Jax, et on n'est pas simplement concentré sur le match. Et puis ça laisse aussi la porte ouverte pour vaguement du doute sur la victoire de Charlotte, finalement, parce que là elle a pas fait grand chose finalement, Charlotte. Enfin, elle a eu son petit passage avec les soumissions, mais sinon c'est Nia Jax qui a détruit l'autre équipe, quoi. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une super séquence. Ensuite on va retrouver Strowman en coulisses qui arrive voir son meilleur ami Mick Foley, et il fait: Foley, est-ce que t'as un adversaire pour moi aujourd'hui?
J'ai faim.
Et Foley fait: ah non, je suis désolé, non mais aujourd'hui j'ai vraiment rien pour toi, il n'y a plus rien au buffet. Et donc Braun il fait: je veux une signature de contrat avec Roman Reigns. Il fait une signature de contrat contre Roman Reigns. Non mais Roman Reigns, le gars qui est là toutes les semaines, le gars qui a un match environ toutes les 30 minutes dans notre show, Roman Reigns, tu crois vraiment qu'il sera pas là? Et il fait: je veux qu'il signe en bas de la feuille. Et donc tout ça nous annonce finalement, bah Mick Foley il fait: bah pourquoi pas, hein, ça fera un bon main event. Et puis on manquait de Roman Reigns dans ce show de toute façon, donc du coup, on aura Roman Reigns et Braun Strowman pour une signature de contrat à la fin de ce Monday Night Raw. Mais on va passer tout de suite à un micro-match. C'est Sheamus et Titus O'Neil. Alors, Sheamus et Titus O'Neil, c'est une grande histoire, puisque finalement, en fait, dans l'après-midi du show, Titus O'Neil est venu voir Sheamus et il lui a fait le sketch de la Titus Brand. Il a fait: vas-y, rejoins ma Titus Brand, tu sais, c'est trop bien, on perd tout le temps, on est au fond de la carte et on a que des matchs de 1 minute 30. Et lui a fait non du coup, Sheamus. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il y a eu un match de bouquet. Sheamus arrive, il a sa petite entrée, tout ça, et puis au milieu de la rampe, et bah Titus O'Neil il arrive, il l'attaque, il le défonce, il le balance sur le coin du ring, et puis le match commence, et puis là Sheamus il se réveille, il lui fait un rock kick, et puis Titus O'Neil et bah il perd en 30 secondes. Ouais. 20 secondes même.
J'ai bien aimé ceci, la petite vidéo Facebook live, donc qui rappelle pourquoi il y a le match. Titus O'Neil qui fait: ouais, attends, moi aussi je suis irlandais. O'Neil, c'est irlandais comme nom, on a qu'à faire un truc. La Irish Connection, ça a marché. Ça, j'ai trouvé ça, ok, c'était fun. Après, complètement anecdotique, ça ne sert à rien, ça n'amène à rien. Mais la seule chose que ça me fait penser, c'est ok, là on a Cesaro donc qui a un match contre Joe. On a Sheamus qui a un match contre Titus O'Neil. Les deux qui sont en équipe ont des matchs en simple.
Ouais.
Contre des gens qui sont pas en équipe. Enfin, du coup, est-ce que ça a un signe avant-coureur que...
C'est vrai que je m'en suis rendu compte avec le recul que c'était une bonne... c'était un bon signe. Alors, je ne sais pas si c'est avant-coureur de leur séparation en tant que tag team, mais par contre, c'est un bon signe. Déjà, je pense que la WWE s'est rendu compte que Sheamus a regagné de l'estime dans le public.
Ouais.
Clairement. Et puis bah d'ailleurs là c'était un pur match de babyface finalement, hein. Titus O'Neil c'était juste le connard qui l'attaque derrière, enfin dans le dos, donc voilà. Et Cesaro bah oui, clairement là Cesaro il est en main event, hein, si on compte pas la signature de contrat. Cesaro c'est le main event de ce soir avec Samoa Joe, donc finalement quand même des noms qu'on verrait pas forcément en main event de Raw, enfin qu'on n'aurait pas vu il y a quelques semaines, donc c'est plutôt bon signe tout ça. On va passer le truc que j'ai pas annoncé alors que ça aurait été un énorme teasing, c'est tout simplement Seth Rollins qui est là ce soir. Seth Rollins, il doit venir parler de sa blessure. Alors, quelques jours avant, en fait, sur www.com, on avait eu la news kayfabe que Seth Rollins, bah, apparemment, il est blessé plus gravement que prévu, et c'est pas sûr qu'il soit à WrestleMania, tout ça, donc voilà, le buzz monte. Et puis, c'est Corey Graves qui est au centre du ring et qui, du coup, présente bah, Seth Rollins qui va venir s'expliquer. Seth Rollins qui arrive, du coup, avec sa béquille, qui est tout penaud. Et puis, donc, ça commence avec Rollins qui dit... Corey Graves qui lui dit « Est-ce que ça va ?» Et puis, Rollins qui dit « Ouais, bah, ça va, mais bon... Ouais, » C'est quand même difficile, c'est une période difficile, machin, et puis donc bref, il parle un peu de ce qu'il vit en ce moment, et puis au bout de peut-être les 2-3 phrases, il dit bah, peut-être que je le mérite finalement, peut-être que il y a 2 ans j'étais à WrestleMania, j'ai levé la ceinture en vainqueur, donc on rappelle, il a caché son Money in the Bank contre Roman Reigns. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais arrête de me faire des signes en barre, ça me déconcentre.
Non, c'est Ringsal qui se resserre une bière dans le frigo, j'ai vu.
D'accord. Donc bref. Donc voilà, il y a 2 ans j'étais à WrestleMania, j'ai levé la ceinture en vainqueur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette ceinture, hein ? J'ai menti, j'ai trahi, et puis quand je suis revenu là, il y a quelques mois, et ben j'ai parlé de redesign, rebuild, machin, parce que c'était un nouveau départ pour moi, mais finalement je suis resté égoïste et tout ce qui m'arrive est de ma faute. Donc Corey Graves, je lui repose quand même la question, il fait, mais est-ce que tu seras à WrestleMania quand même? Et Rollins dit apparemment les docteurs ne me donneront pas le feu vert. Et c'est à ce moment-là que Triple H arrive pour profiter de ce gâteau émotionnel. Et donc il arrive avec un grand sourire. Et il vient expliquer à Seth qu'il est un peu tard pour se rendre compte que c'est de sa faute. Hein. Et puis à ce moment-là, on voit Samoa Joe qui arrive de l'autre côté du ring hein, pour l'encercler. On sent un petit peu la pression là. Le Triple H lui dit que Seth, il était bien content d'avoir la ceinture et de la montrer à tous les autres à l'époque. Hein, et il avait pas de soucis avec le deal qu'il avait passé avec l'autorité. Et puis il finit en disant de toute façon maintenant t'es juste une autre superstar blessée et brisée et qui n'a plus aucune valeur. Et Triple H rajoute maintenant t'as une décision à prendre, t'as pas intérêt à venir à WrestleMania et à venir au milieu du ring et à m'appeler parce que ce sera la dernière fois que tu feras quelque chose dans un ring de la WWE. Et donc bien sûr Seth lui dit que il dit, tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre, j'ai encore moins à perdre qu'il y a quelques mois et donc je serai à WrestleMania et si c'est la dernière chose que je fais, bah, je le ferai et ce sera aussi la dernière chose que tu feras même si ça veut pas dire grand chose. donc voilà. C'était la fin de cette promo. Je sais pas s'il était fatigué, le gars qui a écrit ça, mais ça voulait pas dire grand chose. Du coup, la dernière chose que je ferai, ce sera la dernière chose que tu feras. Quoi? Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment? Donc, du coup, le segment s'arrête là. Il n'y a pas eu de beatdown. Samoa Joe est resté tranquille. Donc voilà. Amiral.
Déjà, je trouve que c'est un peu bizarre qu'ils aient mis Corey Graves pour interviewer Seth Rollins, puisque Corey Graves au commentaire est clairement le commentateur heel en fait, hein, toujours à défendre des méchants. Donc là, Seth Rollins, c'est quand même un gentil qui est blessé. Donc là, il était vachement dans la compassion, genre ouais mon pote, comment ça va, etc. Donc je trouvais ça un peu strange. Après, gros carton rouge au public du soir, qui, alors que Rollins est dans SP, qui sera pas à WrestleMania, que c'est 2 ans de suite, qu'il est blessé, etc. le public qui était mort commence à chanter CM Punk, CM Punk. Alors autant je goûte mon plaisir à chaque fois que le public chante CM Punk, notamment spécialement quand il y a Triple H ou Vince ou Stéphanie sur le ring. J'adore ça. Mais là c'était pas le bon moment quoi. C'est pas drôle, le mec il est encore blessé, c'est une vraie blessure, c'est non, ça fait pas, là c'est pas cool. Not cool.
C'est les ravages de YouTube.
Et Vince
qui est dans son bureau comme ça, il fait Dwayne.
C'est clair.
Donc ça c'était naze, mais bon, c'était public. Après bon bah l'arrivée de Triple H, Samoa Joe, ok, Triple H qui ajoute tout sourire, qui méprise Seth Rollins, ouais ok, t'es un autre mec qui est blessé, bah tant pis, t'es fini maintenant, t'es le futur, maintenant t'es le passé mec. Donc j'ai bien aimé là ce que Triple H a dit, même s'il était trop insistant, genre ouais, t'as pas intérêt à venir WrestleMania sur le ring et m'appeler hein, ne viens pas hein. Surtout en avril à WrestleMania, j'ai pas intérêt à te voir. Il a répété 4 ou 5 fois, donc merci Captain Obvious, on sait que ça va passer comme ça. Bon bah voilà, il continue malgré la blessure à ses storylines, et tant mieux quelque part, parce qu'ils vont tellement gaver à la mettre en place si difficilement que ok, faut la continuer. Et peut-être que cette fois-ci, avec cette nouvelle blessure, c'est triste à dire, mais faut voir la lueur d'espoir dans cette mauvaise nouvelle, peut-être qu'ils réussiront vraiment bah, le repackaging en face de cette Rollins qu'ils auraient dû faire à son retour de la blessure il y a déjà des mois. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir recycler leur reportage 24 sur la blessure de Seth Rollins. Ils changent la date et c'est bon. Hein, et là, ça marche juste. Donc,
Ouais, quand même laborieux hein, tout ça. Ouais. Cette pauvre année là pour Seth Rollins. Et puis putain, et ils auraient pu encore trouver des trucs plus chiants à raconter que ce qu'il a raconté là ce soir, parce que c'était soporifique. J'étais vraiment content de voir arriver Triple H et voilà, la classe au-dessus, voilà, comme Goldberg en début d'émission, quand il sort, hein, même s'il a pas des trucs renversants à raconter, c'est quand même un cran au-dessus du reste au niveau de la maîtrise d'un segment micro. Samoa Joe derrière qui fait peur. Mais sinon, moi j'ai trouvé ça très long, et puis on sent qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on va pouvoir avoir ce Seth Rollins à WrestleMania. Donc je sais pas s'ils ont un plan de secours pour Triple H du coup, je sais pas. Enfin voilà, c'est pas franc du collier, et puis du coup moi j'ai trouvé ça assez ennuyeux hein, au final. Tout ce chapitre-là de Monday Night Raw, et voilà, c'est Rollins qui se prend des chants CM Punk. La dernière fois, quand il faisait le premier match universel, tout le public avait lâché le match pour critiquer la ceinture, gueuler, se moquer de la ceinture. Voilà, on voit bien que c'est pas le babyface qu'ils espéraient faire, hein, mais en même temps, voilà, avec le traitement qu'il y a eu, c'était impossible d'avoir un résultat valable. Donc là, bah, on le sent encore une fois, hein, il est blessé, il est là pour attirer un petit peu de peine du public, et puis bah, il se fait pourrir par un chant CM Punk, voilà. Il n'y a pas de secret, quand c'est mal fait, puis c'est pas efficace. Donc là, encore un exemple avec ce chapitre de ce soir, je trouve.
Moi, je trouve que c'est un... Alors, je suis pas trop d'accord sur... sur le fait qu'on s'ennuie pendant le speech, mais pendant son speech à Rollins, je me suis dit, ça aurait été tellement bien de faire ce speech, genre, il y a quelques mois. juste pour officialiser le face turn et pour dire la vérité, parce que finalement, il a été jusqu'à du coup ce dernier Monday Night Raw, ça a été un face qui refuse d'admettre tout ce qu'il a fait auparavant, qui fait semblant que tout est oublié sur toutes les trahisons qu'il a pu faire, qui finalement c'était un face d'illusion, et il y avait plein de choses du coup, j'arrêtais pas de parler d'incohérence, parce que du coup c'était blindé d'incohérence, parce que il y avait pas d'explication, il y avait pas d'excuse, il y avait pas d'humanité quoi dans le gars. Et l'ont fait, mais ils l'ont fait au moment où finalement ça a pas vraiment de sens.
Enfin même Triple H le dit hein. Même Triple H, il dit, c'est que maintenant que tu t'en rends compte de ça, cette Rollins, c'est ça qui est...
Ouais, bah, il passe encore pour un clown, et puis là, il aura jamais fait son mea culpa.
Après, Triple H, il parle d'autre chose. Enfin, il parle du fait que c'est sa faute si il se retrouve blessé, etc. Mais finalement, en fait, tu pourrais genre transposer le truc, penser que Triple H parle du fait que le public est plus derrière lui. Et tu pourrais transposer ça. Finalement, c'est ça. C'est si tu remplaces ce que dit, enfin, une partie de ce que dit Triple H en disant, eh ben, si t'as perdu les faveurs du public, c'est parce que et voilà. Mais oui, donc du coup, c'est un très bon speech qui était au mauvais moment, je trouve. Et après, ce que dit Triple H, c'était comme un parent, un jeune parent devant un gamin de 5 ans qui dit surtout le pot de Nutella dans qui se situe au deuxième tiroir dans ce meuble, tu ne vas pas le chercher et ensuite tout manger avec la cuillère qui se situe juste là, hein. Tu n'y touches pas surtout. Bon, je m'en vais pendant 3 heures. Donc, du coup, c'était vraiment ça. Et en plus, c'était pas, alors pour le coup, j'ai encore parlé de cohérence, c'était pas cohérent avec ce que venait de dire Rollins, qui venait de dire, je serai sûrement pas à WrestleMania. Du coup, il y avait pas de menace. Pourquoi dire, ne viens pas à WrestleMania, si juste avant, le gars, il dit, je serai sûrement pas à WrestleMania. Ça avait pas de logique.
Mais c'est un peu tout ce qu'il faut pas faire qu'ils font avec Seth Rollins, hein, depuis le début. Le face turn qui est pas fait au bon moment, il y a 1 milliard de personnes dans la feud, un truc sur un an, alors qu'au final ils vont pas pouvoir faire le match parce qu'il est blessé, donc voilà, ça c'est le booking sur le long terme, hein, tout le monde fantasme dessus, mais on voit que c'est super casse-gueule parce que à tout moment on peut y avoir un blessé et du coup ça remet tout en question, surtout sur Mania en plus. Donc là pour moi c'est vraiment c'est faux, c'est loupé sur toute la ligne ce qu'ils font avec Rollins en finale.
Deck. Bon, alors on va passer ultra rapidement. Il y a eu Primo et Epico contre Big Show. C'est Big Show qui a gagné. Hein. Il a fait des slams à droite à gauche. Et on a annoncé Beth Phoenix dans le Hall of Fame. Donc moi j'ai noté c'est cool parce que c'était une des rares bonnes catcheuses qui était là quand j'ai commencé à regarder la WWE. Vous en pensez quoi, Beth Phoenix au Hall of Fame? Amiral, arrête de regarder ton smartphone.
la Glamazon, non, c'est bien, effectivement. En plus, on voit dans la vidéo package, elle a participé au premier table match des filles, au premier I Quit match des filles. Donc là, on est dans une mouvance avec Charlotte, Bailey, Sasha Banks notamment, sur faire les premiers matchs en Elinocel, etc. Bon, ben voilà, Beth Phoenix a été une précurseuse à son époque, donc il y a à peu près 10 ans dans la WWE. Donc c'est bien qu'il la fasse entrer dans le Hall of Fame. Je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est cool. En plus, c'est pas trop vieux, donc les gens la reconnaissent ou la connaissent, donc c'est bien.
Toi, ouais, moi aussi, c'est bien. Ça ou autre chose, hein. c'est pas plus mal.
Ouais, on a compris, Ringside s'en fout de le fait.
Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de DDP la dernière fois. DDP qui est rentré aussi au Hall of Fame. Bon, sachez-le, c'est une grande star aussi de la WCW. Il a fait 2 ans, je crois, à la WWE après qu'il soit fait racheter. Il disait que c'était un connard et qu'il savait pas bosser, mais maintenant il est dans Hall of Fame, c'est bien.
Et voilà, et maintenant il sponsorise tous les podcasts de la Terre avec son DDP Yoga, sauf le nôtre.
Bientôt,
on aura DDP Yoga, tout ça. Et On It, les suppléments là, ou je sais pas quoi. On a eu un petit passage aussi avec Sasha Banks et Bayley en coulisses où elles sont en train de pleurer sur leur défaite avec des sacs avec des glaçons. Et donc Stéphanie, elle arrive et elle fait « Ah, vous êtes en train de pleurer ? Eh ben, bande de connasses, Sasha Banks, t'auras un match contre Nia Jax. Comme ça, tu seras encore plus blessé à Fastlane. » Donc voilà, on aura Nia Jax contre Sasha Banks à Fastlane. C'était ça qui était annoncé. Passons à Cesaro contre Samoa Joe. Rapidement, ça commence avec Joe qui fout Cesaro dans le coin du ring et qui enchaîne avec des coups de poing, mais Cesaro réussit à s'en sortir et lui casse directement une énorme souplesse sans aucun élan, super impressionnante. Il enchaîne avec des uppercuts. À un moment, il y a un compte de Joe, mais Cesaro réussit à s'en sortir et monte sur le poteau et lui fait un crossbody. Petit tombé, je crois, tombé de deux. Donc, il s'échange vraiment coup pour coup. Et, Et donc à un moment, Cesaro se réceptionne un peu bizarrement, il se blesse la jambe gauche hein, de côté kayfabe. On a eu beaucoup de beaux spots, Cesaro qui case un flying uppercut sur Samoa Joe qui est assis, hein, il était sonné par terre, Cesaro a plongé pour balancer son uppercut. Il a fait beaucoup de démonstrations de force finalement, hein. Cesaro c'était festival. À un moment il lui a même fait un double stomp qui était un peu sorti de nulle part, mais donc la blessure de Cesaro au début du match le mène quand même à un moment d'hésitation vers la fin où je sais plus, il essaie de faire une combinaison avec les cordes et puis voilà, il est déséquilibré et il se fait planter à terre par Samoa Joe avec est-ce que quelqu'un a le nom déjà?
C'est un Uranage, ils disent a priori. Uranage, voilà. En gros, c'est une sorte de rock bottom, mais avec autorité et bien plus de pêche que le rock. Voilà.
Ouais. C'est un rock fat bottom. Et donc, du coup, la victoire de Samoa Joe. Et juste après, Samoa Joe, il se fait interviewer par une des commentatrices.
Charlie.
C'est Charlie. Une des commentatrices, une des intervieweuses qui pose tout le temps les mêmes questions, genre et après ce match, comment vous sentez-vous? Et donc, Samoa Joe qui sort à peine du match, hein, vraiment, ça fait à peine une minute, explique chute destroyer, je viens de détruire un athlète monstre, et voilà, j'ai détruit tous les gens qui sont passés devant moi depuis que je suis arrivé. Donc voilà, bref, je défonce tout le monde. Et puis, elle lui demande pourquoi... Enfin, comment vous allez réussir... Enfin, je sais plus comment... pour quelle raison vous êtes aussi, successful. Enfin, bref. Et puis, il dit juste... c'est parce que je suis supérieur à tout le monde. Et bref, Sami Zayn arrive. Donc pour l'attaquer, puis là la sécu intervient et sépare. Au moment de la séparation, Joe en profite quand même pour sortir et puis balancer un bon gros coup à Sami Zayn à terre, hein, et ils sont re-séparés. Sami Zayn qui est vers le Titan Throne et Samoa Joe qui est en contrebas. Et là, Sami Zayn se sort de la sécu et fait carrément une sorte de suicide dive, enfin flip suicide dive sur Samoa Joe un peu plus bas. Voilà, et puis ils sont reséparés. Voilà, petit teasing pour le match donc Joe Zayn à Fastlane. Qu'est-ce que commentaire sur le match avec Cesaro, le build pour Zayn Joe, tout ça? Ring.
Le match était pas mal. Après, moi, j'ai du mal avec ce booking de la blessure, la fausse blessure là, qui nous classe assez souvent. C'est, j'aime pas trop. Donc, mais ça permet de voilà de sauver un peu Cesaro, de le protéger un peu. Il y a vraiment des beaux spots dans le match. On voit que ça fonctionne bien entre les deux. Donc, on a envie de revoir ça. Un peu comme quand Rollins avait affronté Sami Zayn là il y a quelques mois. On voit qu'il y a du potentiel pour un affrontement assez dantesque entre les deux. Donc voilà, plutôt un bon match dans l'ensemble. Et puis une putain de promo de Samoa Joe, moi je trouve après le match là pour le coup je trouve qu'il assure bien au micro, ils lui ont donné des trucs vraiment pertinents à raconter derrière la petite intervention de Sami Zayn qui va bien, le petit brawl avec l'intervention de la sécurité, c'était bien cool. À part, il y a un mec de la sécurité qui portait des lunettes, je trouvais ça un petit peu chelou, mais sinon non, on va prendre un segment efficace là. Comme je disais, Samoa Joe voilà, il s'impose dans le roster facilement, logiquement, et voilà, du coup on est bien teasé pour ce match là entre Sami Zayn et Samoa Joe. Ça va donner du lourd à mon avis, ça va être très très bon. Là, on était dans un bon moment de ce Monday Night Raw.
Ouais, c'est clair. Bah voilà, après avoir fait de beaux affrontements précédemment, là encore un bel affrontement de Samoa Joe qui s'intègre vraiment, comme tu dis, ringside dans le roster, autant en promo que dans le ring. Voilà, et c'est cool encore une fois de voir Cesaro dans un match en simple qui donne quelque chose de bon, quoi. Et effectivement, le booking de lui faire une blessure pour le préserver, c'est intelligent. parce que finalement Joe doit gagner à la fin, mais Cesaro doit pas passer pour un tocard, donc non, c'est plutôt bien réussi. Et puis le finish de Joe, vraiment, son move qui remplace donc peut-être son muscle buster, est bien efficace, bien impactant. Je trouve vraiment il y a une grosse pêche. T'as mal pour Cesaro quand il se prend, quoi. Donc
ouais.
Très chouette. Puis
bon, à force d'essayer de soulever Samoa Joe 15 fois dans le match, on va forcément se blesser, quoi. C'était vraiment, je crois que Cesaro a fait. Genre à la place de ce que ferait n'importe quel catcher, c'est-à-dire essayer de faire des clotheslines, des coups et machin, Cesaro toutes les deux minutes dans le match c'était allez c'est parti.
C'était sa séance de muscu à lui hein, en même temps que ah ouais. Le match voilà, c'est de se dépasser, qu'est-ce que je peux soulever, comment je peux le soulever, quelle sorte de figure je peux faire avec mon adversaire.
Il y en a qui prennent des haltères, moi j'ai un samouan de 140 kilos, ça me suffit quoi. Allez.
Voilà.
C'est toujours très impressionnant quand même à regarder. Et puis on va passer donc à la dernière séquence qui est dédiée à Roman Reigns et Braun Strowman. Donc Braun, il arrive au milieu du ring, il y a Mick Foley, qui est venu avec le contrat, il y a une table et tout ça. Et puis Braun direct, il dit Mick, t'as ramené les crayons, t'as ramené les papiers, t'as fait ton boulot, maintenant tu te casses ou sinon. Parce que c'est la catchphrase de Braun Strowman, hein, je vous l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais maintenant il l'a bien installé, hein, il finit toutes ses phrases par or else. Donc voilà. Et puis Mick, il a un regard un peu énervé, et puis Braun, il en profite pour en rajouter une petite couche, il dit de toute façon, tu vaux plus rien, t'es juste un pauvre vieux papa de banlieue. Il lui fait une Stéphanie, quoi. Donc Mick Foley, là, il est pas content. Il s'est fait pourrir toute la. Il dit putain, ce soir, je me fais pourrir par tout le monde. J'en ai marre. Alors, tu vas me respecter parce que je suis une légende quand même, hein. Voilà. Et là, Braun s'avance vers lui. Hein. Donc, on sent la grosse, grosse tension. Mais heureusement, Superman arrive. C'est Roman Reigns, le Big Dog. Et donc Roman Reigns, il arrive et puis il commence à essayer il essaie de lancer un punch sur Braun, mais Braun l'évite et puis direct Braun le prend comme un sac à patates et le balance au-dessus des marches. Après ça se chamaille à droite à gauche. Oui, j'ai noté juste après que Roman Reigns se fasse balancer au-dessus des marches. Roman, il scelle pas du tout, hein, 5 secondes par terre et après il revient même Superman punch.
Ah mais c'est parce qu'il a esquivé. Il a sauté par-dessus.
Ouais.
C'est pour ça qu'il reste pas à terre. Il a clairement sauté par-dessus, ouais. En fait.
Moi, j'avais vu.
Il mettre au-dessus des marches, ouais. Bien de.
Ah ouais. Non, c'est mais parce qu'il s'est attendu au coup, il l'a esquivé.
Il a fait du saut d'obstacle, là. C'est le big dog. Les compétitions de chien qui sautent, c'est pareil.
Donc voilà, ils se foutent des pains dans les quatre coins du ring. À un moment, Reigns, il spire Strowman à travers. Enfin, ils sont du coup vers le public, hein, derrière les barricades. Et Reigns spire Strowman à travers les barricades et il défonce en même temps un. Alors, d'après les commentateurs, un mec de la sécu, mais ça ressemble plus à un technicien. Hein, bon. À mon avis, c'était pas prévu, hein, parce que. Ça me semble.
En plus, c'était le coin qui est pas protégé des barricades. Il y a pas de mousse devant.
Je pense que c'est
impressionnant.
C'est un mec du staff de l'arène en fait. C'est la sécurité, mais de l'arène, pas de la WWE, mais de l'arène qui s'assure à ce que les gens restent en public. Et comme il y avait l'arbitre juste après qui vient voir le mec qui reste à côté, qui lui parle, je pense qu'effectivement c'est pas prévu. Et c'est pour checker qu'on ne soit pas blessé. Ouais,
donc après ce spear, Strowman, il est à terre. Alors Roman, il en profite pour aller signer le contrat. Mais à ce moment, juste au moment où il va signer le contrat, Strowman il revient et il balance Roman dans sur un des poteaux du ring. Et puis la troisième corde se fait défoncer par le ressort de la troisième corde apparemment n'a pas tenu. Hein, donc le ring est en train de la troisième corde flotte, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, Strowman se tire, hein, juste après. Roman rampe par terre et jusqu'à la table, et puis il s'accroche, et puis il regarde Strowman, les yeux un peu dépités, et puis il signe quand même le contrat. Donc, notons que de ce que j'ai vu, Strowman n'avait pas signé le contrat, lui. Mais bon.
Non.
Il sait pas écrire.
Peut-être que finalement, c'est pas possible pour Strowman de.
Il a craché dessus.
Utiliser un crayon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce. Oui. Ce beatdown. Enfin, finalement, un beatdown des deux côtés, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors moi ça m'a fait beaucoup rire que Strowman exige à Mick Foley que Roman Reigns écrive son nom dans un contrat. Je veux le nom, la signature de Reigns dans les petits pointillés.
Attendez, son petit côté juriste.
C'est ça. On parle bien de Braun Strowman. De Braun Strowman, le monstre parmi les hommes qui sont d'une caverne et qui demande un contrat. C'est un peu what the fuck. Clairement.
C'est Stéphanie qui m'a dit de demander.
Ouais, je l'ai lu sur internet, c'est comme ça qu'on fait.
Je suis allé sur juriste.com.
Bon, bref. Ça, voilà, c'est un peu strange. Le point positif de tout ça, c'est que pour une fois, cette semaine, je n'ai rien à redire au booking de Roman Reigns. Il n'a pas été booké de façon dégueulasse cette semaine pour un face, je dirais. Ok, il a fait son face, il est arrivé, il s'est pris plein la gueule, mais à la fin, il est quand même présent debout, mais blessé, il signe son contrat, il se défile pas. Ok, c'est un bon booking. Et j'ai l'impression que le public était un peu plus derrière lui. Ce qui montre que quand les mecs le bookent correctement comme un face, comme ça devrait être le cas, eh bien, ça marche mieux avec le public.
Et Strowman comme un heel, parce que aussi, ils ont fait ça grâce à Foley, quoi. Le moment où Strowman pourrit Mick Foley, là le public est pas content.
Non, puis même on a l'impression que Strowman va lui mettre une droite à mon nez ou va le balancer par-dessus le ring. Donc oui, il y a un peu ce danger. Ok, le vieux, je veux t'exploser, quoi, avec son côté or else, quoi. C'est toi aussi, apprends à négocier avec Braun Strowman. Je veux ça, sinon. Donc voilà. Donc non, le segment était pas mal. Après, est-ce que ça nécessitait le main event? Non. Non. C'est pas.
Il manque tes initiales sur le contrat.
Tu n'as pas paraffé chaque page. Donc ouais, pour moi ça n'avait pas sa place en couture de show. C'est le seul truc que j'ai à redire.
Ring, t'as appuyé sur ton bouton mute.
Ouais, pardon. Je disais qu'ils ont, ils ont dû mettre ça en main event parce que Goldberg voulait peut-être le room service. Donc il fait son petit segment en début de show, puis il rentre, et puis comme ça il peut manger chaud à l'hôtel. C'était bien foutu, c'était efficace. Les gens utilisaient comme il faut dans leur personnage. Pour Braun Strowman qui est vraiment le méchant de l'histoire. Mick Foley poussé dans ses derniers retranchements qui nous rappelle quand même qu'il est une légende et que ça fonctionne auprès du public puisqu'il est, il est populaire et puis un vrai challenge pour Roman Reigns qui est vraiment mis en difficulté et donc du coup voilà le public hein, il se range un peu derrière lui, on a des chants Roman, ça change un peu. Non, là, c'est plutôt une réussite sur toute la ligne. Après, c'est sûr que c'est un peu léger pour le main event d'un go-home show comme ça, mais ils misent beaucoup sur Roman Reigns, ils misent beaucoup sur Strowman, donc quelque part, ils les placent en main event, c'est un peu leur place aussi, mais plutôt une réussite dans l'ensemble, ce segment-là.
Et voilà, on a terminé avec Monday Night Raw, on va passer au mot de la fin. Le mot de la fin, c'est une note, un top, un flop, et c'est en vente chez vos marchands de journaux. Non, je vais demander d'abord à Monsieur l'Amiral de donner son mot de la fin.
Alors mon flop, c'est un truc dont on n'a pas parlé parce que c'était vraiment insignifiant, c'est qu'il y a eu un segment, je remets bien Violette, un segment aussi Cruiserweight avec donc du coup Neville, le champion Cruiserweight et Jack Gallagher, etc. Et c'était tellement inintéressant qu'on a bien en parler, ça ne manque pas. Donc là vraiment, je suis pas du genre à taper sur les Cruisers parce que je trouve qu'ils sont pas bien traités, mais là c'était à chier ce qu'ils ont fait autour de la ceinture Cruiserweight pour vendre leur match donc à
Paris. Voilà, c'était Tony Nice. Neville qui disait un truc genre je suis le meilleur, machin, etc. Je vais te battre et tout. Et puis, enfin, non, c'est pas je vais te battre, c'est je vais. Je sais.
Alors, on est en équipe ce soir, tu veux te battre?
Non, on est en équipe ce soir.
Ouais, il fait bien attention, il faut des trucs à la heure.
Et puis, ce qu'il dit, moi, je travaille que pour Tony Nils, le premier athlète, le machin. Enfin, bref, c'est rien, quoi.
Bon, c'était à chier, voilà. Donc, c'est mon flop. Mon top, ça va être. Si, c'est mon flop. Le top, c'était le tag team match chez les filles. Vraiment, très beau match, du beau tag team qu'on va voir chez les mecs, comme on disait. Et ma note, un go-home show moyen, peu décevant avant le pay-per-view, qui a une carte alléchante, mais là, c'était pas super, super. Je mettrais donc la moyenne, 2,5. Voilà.
Ok. Ring.
Moi, mon flop, je vais le mettre au tag team Enzo Cass, l'espèce de match qu'il y a eu contre Anderson. C'était. C'est assez ennuyeux, j'ai trouvé, puis ça n'apporte rien au match qui va arriver. Le début du show n'était pas terrible d'ailleurs, hein, de Monday Night Raw, la première heure, c'était assez ennuyeux. Le top, je vais le mettre à Cesaro contre Samoa Joe, et à Samoa Joe, tiens, plus précisément, qui assure comme un beau diable. Et puis la note, ouais, on va mettre 2,5 aussi, un Raw moyen, un Go Home Show moyen.
D'accord, bon, je vais être un peu plus gentil. Moi. Mon flop, c'est Goldberg. Goldberg qui se fout de la gueule de Kevin Owens. Moi, ça m'a cassé les couilles. Et puis, c'était très enfantin, quoi. C'était très genre, j'ai pas de répartie, du coup, je fais ha ha ha, ah oui, vas-y, continue. Oh, bref. Et puis, le top. Le top, je vais le mettre sur un tout petit truc. C'est le moment où Charlotte a dit à Bailey, on en a tellement marre de t'entendre parler de tes rêves.
C'est tellement vrai.
Ça dit juste.
On en aurait pas marre si elle disait autre chose, mais
pareil, mais voilà, qu'elle est toute petite.
D'être chanteuse. C'est vrai.
J'ai entendu ça, j'ai lu ça dans le Wrestling Observer.
Elle est fan depuis quand? Parce qu'elle est toute petite.
C'est ça.
Incroyable. J'ai jamais entendu parler d'une star de la WWE qui était fan de catch. Et donc du coup la note, moi je mets un 3 quand même parce que j'ai bien aimé, j'ai énormément aimé, je l'ai pas mis en top, le match des filles et Cesaro Samoa Joe. Et Rollins, bizarrement, il y a une partie du segment avant que Triple H arrive pour finalement un peu tout détruire. je trouvais ça assez touchant, hein, malgré les chants CM Punk. Donc bref, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez écouter notre podcast Le Cashup Raw ou Le Cashup SmackDown sur toutes les bonnes plateformes comme iTunes, comme PodCloud, comme YouTube. J'ai pas oublié. Non. Pour l'instant, on n'est que là-dessus. Hein. Mmh. Dès qu'on a le budget, on part sur au moins une dizaine de plateformes, version anglaise, version espagnole. Bref. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie Monsieur l'Amiral d'être venu.
Un plaisir.
Je remercie Monsieur Ringside.
Ouais, merci. Je rappelle qu'on a un Facebook et qu'on a un Twitter aussi.
Ah ouais, non mais oui, on est sur les réseaux sociaux aussi, mais j'oublie tout le temps parce que c'est pas moi qui m'en occupe.
Ouais, laissez des commentaires, des likes, posez des questions.
Donc alors ouais, sur Facebook, c'est CatchUpCDC en fait, c'est facebook.com/CatchUpCDC sur Twitter, c'est la même, c'est @CatchUpCDC. Donc voilà, c'est très simple. Allez-y.
Venez sur les cahiers du catch aussi.
Et venez sur les cahiers du catch aussi. Bon, il y a des gens encore plus aigris que nous, hein, faites gaffe.
Comité d'accueil est violent.
On vous dit rendez-vous dans la vidéo des pronos sur Fastlane, parce qu'on va faire une vidéo de pronos. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et très bon pay-per-view. Salut.
Salut.
Ciao.